voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de L'Art au passage. Cette fois-ci, ce ne sera pas une rediffusion d'Art Racaille, mais une production originale. Aujourd'hui, c'est l'été. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés.
Oui, c'est clair. Ça fait longtemps.
Ça fait un petit bout de temps là maintenant. Hein, donc, c'est toujours un irrégulomadaire évident. Et on a la chance de se retrouver donc avec Jérôme, notre technicien de référence.
Depuis le début.
Préféré, depuis le début, voilà. Et aujourd'hui, Anthony Carcone, qui vient nous présenter un travail qu'il a réalisé avec des lycéens du lycée Le Secmo.
Le Secmo,
À Saint-Trojan.
À Saint-Trojan, le Secmo. Oui, voilà, à Saint-Trojan, durant le mois de juin de cette année 2023. Alors, Jérôme, bonjour. Bonjour. Anthony, bonjour. Ouais. Moi, c'est Juliette. Et donc, on va commencer par présenter un peu le travail d'Anthony, savoir qui tu es, Anthony. J'ai entendu que tu étais donc un artiste sonore, également un musicien.
Disons que je suis créateur sonore, musicien, scénographe sonore, même paysagiste sonore. Révéler l'invisible, ou plutôt l'inaudible. Les sons en voie de disparition, certains paysages sonores, comme la disparition des chants d'oiseaux, en ce moment, avec ma pièce Birds of Silence, ou même la communication entre les plantes avec l'installation sonore Intima Natura, que j'ai eu l'occasion de diffuser au musée Èbre, à Rochefort, et puis à la maison éco-paysanne d'Oléron. Ce travail sur les paysages, je l'ai amorcé au début 2000 à Bruxelles, à l'atelier de création radiophonique. Et je dois dire que depuis, j'aime raconter ce qui se passe entre les sons, les silences, les bruits, comme lorsque vous écoutez la nuit. Chaque son vous raconte quelque chose.
En fait, tu crées des univers sonores, tu es musicien. Enfin, c'est très mystérieux un petit peu tout ça, parce qu'on est dans un art qui est presque un art plastique de la musique. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment... c'est pas de la musique, c'est du son.
Eh bien, par exemple, l'exposition Intima Natura, là, que j'avais proposée au musée Èbre à Rochefort, je me suis inspiré de récentes découvertes en bioacoustique végétale, basées sur le principe que les plantes émettent des fréquences, des ultrasons inaudibles pour les humains. Il faut savoir que les gammes de fréquences des plantes varient entre 40 000 et 80 000 Hz, alors que l'oreille humaine, elle, ne perçoit que des sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Voilà, donc les ultrasons nous sortent de nos habitudes, et j'aime pouvoir jouer avec ces fréquences et les transformer en notes de musique. Voici en gros l'idée.
Notre environnement sonore, il est vivant, comme tout le reste.
C'est-à-dire qu'aussi, les enfants n'ont pas entendu ce que nous avons entendu il y a 20 ans. Et on se rend compte que les paysages dans la nature tendent à disparaître. Et qu'il est important aussi de leur faire écouter ce dans quoi ils vivent et qu'il y a une interaction et qu'ils peuvent agir. Pour une sorte de protéger ce patrimoine sonore.
D'accord. Éduquer les oreilles.
Éduquer, c'est dur comme mot. Mais sensibiliser, peut-être.
Sensibiliser, oui. Enfin, travailler les oreilles. Ouais. D'accord. Est-ce que tu fais, du coup, on t'a sollicité pour ça, aussi auprès des jeunes, pour les faire jouer avec le son et les faire prendre conscience
Oui, effectivement, c'était le projet avec le CEPMO. Un projet initié par le musée d'Oléron, de Saint-Pierre. Un projet du PEAC, il faut le dire. Projet éducation artistique et culturelle. Donc le musée était porteur du projet avec qui j'avais déjà collaboré sur l'exposition actuelle Loti Enfants d'Oléron, m'a contacté pour l'accompagnement artistique des élèves du CEPMO, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer autour d'une œuvre littéraire et réinterpréter les textes de Loti pour créer un voyage sonore. Alors, il faut dire que j'ai été soutenu et accompagné pour cela par Marjorie Perrault du musée d'Oléron, et les élèves ont été encadrés par la professeure d'histoire-géographie Alexandra Caille, que je remercie au passage.
D'accord. Et ça s'est fait autour de l'incontournable P. Lotti, on le reconnaîtra, qui a généré, c'est merveilleux, énormément de subventions ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà. Donc ça, c'est une occasion, un prétexte pour réaliser quelque chose avec des jeunes.
Qui ne connaissait pas forcément Pierre Lotti, n'en avait jamais entendu parler, parce qu'au lycée CEPMO, tu as des élèves qui viennent de toute la France et qui se retrouvent à Saint-Trojan et à qui on fait découvrir Pierre Lotti.
D'accord.
Alors Pierre Lotti, il faut savoir que le musée, justement, cette année, propose une expo sur l'enfant de l'île, parce que Oléron était son lieu d'enfance et aussi son lieu de son dernier voyage.
D'accord, très bien, très bien. Alors, donc ce projet a-t-il un titre ? Est-ce qu'ils ont donné un nom
à... Oui, les élèves ont donné un simple nom, les voyages de Lotti. Alors les voyages de Lotti, c'est vaste. Mais on leur a proposé, ou le lycée et le musée leur ont proposé différents textes qu'ils ont pu choisir, s'approprier et par la suite le mettre en musique.
D'accord.
La musique aussi, c'est eux qui l'ont produit.
Alors par chance, oui, parce que par chance, justement, dans ce lycée, pas mal d'élèves font de la musique par ailleurs. Et ont toutes sortes d'activités et se sont prêtés au jeu très rapidement. Au lycée, il y a pas mal d'instruments de musique. Donc, il y a trois pôles, en fait, dans le projet. Je les ai accompagnés dans l'enregistrement des ambiances sonores. Je les ai accompagnés aussi pour les lectures et pour la musique.
Et donc, le montage aussi de l'émission
Et pour le montage, non, finalement. Par contre, j'aurais proposé dès le départ, parce qu'on n'avait que quelques jours pour travailler ensemble, du fait qu'il y avait le bac, toutes les obligations scolaires. J'aurais proposé, de mettre de mettre mon piano, qui était en expo, comme ma composition, comme colonne vertébrale.
Ouais, comme un fil.
Voilà, et autour, on a fait une sorte de patchwork.
D'accord.
D'accord. Donc on t'entend au piano tout au long de...
Au fond. Ouais.
Et eux, ils ont travaillé en groupe, alors c'est ça. Il y avait combien d'enfants ?
Bon, il y avait une vingtaine d'élèves de deux classes de première.
D'accord.
Donc trois groupes, un groupe de lecteurs, de lectrices. D'ailleurs, plus de lectrices que de lecteurs, je dois dire.
Ouais.
Des gens qui étaient plus intéressés par les prises de son d'environnement, c'est-à-dire mer, campagne et autres. On a dit quoi ? Musique, ambiance lecture. Sonore et lecture, voilà.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont choisi librement de participer et
totalement,
ce à quoi ils voulaient participer. Très bien.
Je pense que les élèves s'exprimaient aussi autour d'œuvres littéraires. Ils sont permis, ont réinterprété les textes pour créer un voyage sonore.
D'accord.
C'était un peu la démarche de base, justement.
D'accord. Est-ce que certains d'entre eux avaient déjà fait du montage sonore ?
Absolument pas.
Absolument pas.
Ils ont tout découvert. Bon, alors, comme je disais auparavant, certains étaient musiciens, donc très rapidement, ils ont mis la musique en place. Je n'ai pas eu grand-chose à faire, en fait, en tant que guide. J'ai juste eu à les orienter, selon les textes, sur une musique un peu orientale ou asiatique ou telle. Pour illustrer les différents textes, mais ils ont pris les choses
en main,
très facilement. Ma démarche, c'était de sensibiliser les élèves à l'écoute, que ce soit la prise de son, la lecture ou la musique. Alors concrètement, des groupes se sont constitués parmi les élèves, chacun selon sa sensibilité, et c'est ainsi que le texte, comme prétexte, est né, afin que les élèves puissent se réapproprier les textes. Alors, ce qui est touchant lorsqu'on écoute cette création, ce sont les silences, les ponctuations propres au lecteur. Chacune apporte sa touche, sa sensibilité, que j'ai essayé de valoriser au montage. Alors, je précise qu'il n'y a pas eu de répétition. En général, Il y a eu une première prise. La première prise était la bonne, de façon à ce qu'on puisse conserver l'émotion intacte. Et le fil de la lecture, lui, se déroule naturellement, finalement, autour d'un piano, qui est à l'origine la compo que j'avais, la composition que j'avais, que j'ai mis en place au musée de Liron de Saint-Pierre, pour l'exposition Loti, enfant de Lille. Alors, il me semble qu'ici, nous interrogeons l'inaudible. L'inaudible entre les mots, le silence aussi. C'est une forme de paysage, de l'intime, qui permet à chacun de se révéler dans cette création. Et puis, écouter du Loti à travers la voix de la jeunesse, ça leur offre une nouvelle lecture de Loti, peut-être.
Très bien. Bon, bah, c'est chouette. Peut-être qu'on peut écouter maintenant le travail qui a été réalisé donc, par ces jeunes et par Anthony.
Et ben, ça va être un petit voyage de 23 minutes à peu près.
Voilà.
Laissez-vous porter. C'est un peu aussi, on peut le prendre comme une sieste sonore. Laissez-vous porter sonore. Par ce voyage.
C'est ça. Et on se retrouve après pour débriefer un petit peu sur tout ce qu'on a entendu.
Un grand plaisir.
Allez, on y va.
À tout à l'heure.
Bienvenue. Nous vous proposons une sieste dans l'ambiance sonore. Pierre Loti, ses écrits de voyage de l'enfance à la mort. Durant le 19e et le 20e siècle, un extravagant personnage, Pierre Loti, connu pour ses grandes fêtes et ses voyages. Moderne de son temps, il serait aujourd'hui au sein de nombreuses controverses. Cet officier de la marine plein de maladresse.
Prime Jeunesse, 1867.
Entre des vignes déjà dorées et des marais semés de ces gros tas de sel qui, en automne, simulent des tentes de campement, je m'acheminais vers Saint-Pierre en suivant des petites routes tranquilles où l'on respirait une brise saline parfumée par les œillets roses et les immortelles des sables. Je traversais le village de Sauzel, connu dans toute l'île pour ses sorciers dont les maisons sont blanchies comme celles des Arabes et où des aloés, grandes comme ceux d'Algérie, poussent dans les jardinets. Enfin, j'arrivais à notre vieille petite ville de Saint-Pierre, vivant comme jadis de son humble vie régionale, grâce au sel de ses marais et aux raisins de ses vignes. Par cette chaude soirée, elle semblait dormir sous son suaire de chaux blanche, et des fleurs formaient plates-bandes au pied de tous les murs, suivant l'usage de l'île.
Maison des Aïeuls, 1899.
La maison dont je vais vous parler, la maison de Lille, comme on l'aimait l'appeler dans ma famille autrefois, la maison de mes ancêtres, Ogonon, avait été vendue à des étrangers, après la mort de mon arrière-grand-mère. Elle n'eut cesse de nous appartenir, par quelques liens secrets, insaisissables pour les hommes de loi. Ensuite, nous étions peu à peu déshabitués d'aller sur l'île. Quand je vins au monde, elle appartenait à un pasteur, un ami de ma famille, qui n'a changé aucune chose, et respectait nos souvenirs, et ne troublait point le sommeil de nos morts, couchés de tant des persécutions religieuses, dans la terre du jardin. Pendant les premières années de ma vie, ma mère, mes tantes, mes grandes-tantes, avaient passé dans cette maison une partie de leur jeunesse. La silencieuse demeure n'a pas été plus modifiée au-dedans que dehors. Les détails mêmes ont resté intacts. En montant à l'étage supérieur, J'ai la fantaisie d'ouvrir certains placards de l'escalier qui, dans les histoires d'enfance de mes aïeux, jouaient souvent un rôle. Sur les étagères se tenaient des pots venant s'amuser les enfants du temps passé. Dans cette chambre-là, je savais que ma mère, étant toute petite fille, ait commencé à écrire. S'était amusée une fois à graver son nom sur la vitre de la fenêtre, avec le diamant d'une bague. Je n'espérais point retrouver cela, mais le carreau a miraculeusement résisté à 60 années de possession étrangère. Inscription y est encore. Nadine. Alors je fermais à demi les yeux. Un soir d'ennui sans doute, en regardant tristement cette vieille rue. Non. Je me recueille plus profondément pour me représenter dans cette petite toilette surannée, l'enfance qui écrivait cela vers 1820, un soir d'ennui sans doute. En regardant tristement cette vieille rue de village toujours pareil, un soir où la pluie devait tomber comme aujourd'hui.
Jérusalem, année 1894.
Et nous recommencerons à faire route vers le nord dans ce désert d'un gris jaunâtre qui semble n'être plus rien que l'étendue. L'étendue sous sa forme la plus simple, mais aussi la plus excitante à courir. Le vent qui souffle presque froid au-dessus de ce grand linceul de nuages stimule la vie, lui aussi pousse au mouvement à la vitesse, et jamais encore nous nous étions sentis tant grisés d'espace et de vide. Et nous recommençons à faire route vers le nord, dans ce désert d'un gris jaunâtre qui semble n'être plus rien que l'étendue. L'étendue sous sa forme la plus simple mais aussi la plus excitante à courir. Le vent qui souffle presque froid au-dessus de ce grand linceul de nuages stimule la vie lui aussi, pousse au mouvement à la vitesse et jamais encore nous nous étions sentis tant grisés d'espace et de vide. Le désert se maintient lisse et pareil. Au loin pourtant, sous de lourdes nuées qui traînent, des ondulations commencent à se dessiner, comme une première levée de houle sur une immobile mer. Des lézards scameux couleur du sol et de l'étendue traversent à tout instant la caravane, sous les pieds de nos bêtes. Que les chameaux aiment manger avec un petit cri de mécontentement dès qu'ils l'aperçoivent. Ils tirent sur la guide de laine noire et tendent leur long cou abaissé vers la terre. Nous avons laissé ce matin sur notre droite la route des pèlerins de Syrie et il n'y a plus sur le sol aucune trace, aucune sente pour nous guider.
Le désert se maintient lisse et pareil. Au loin pourtant, sous de lourdes nuées qui traînent, des ondulations commencent à se dessiner. Comme une première levée de houle sur une immobile mer. Des lézards scameux, couleur du sol et de l'étendue, traversent à tout instant la caravane sous les pieds de nos bêtes. Et ça et là, croît une maigre fleur violette que les chameaux aiment manger. Avec un petit cri de contentement dès qu'ils l'aperçoivent, ils tirent sur la guide de laine noire et tendent leur cou, long cou baissé, vers la terre. Nous avons laissé ce matin sur notre droite la route des pèlerins de Syrie, et il n'y a plus sur le sol aucune trace, aucune sente pour nous guider.
Japon, décembre 1900.
Réveillé tard, après une telle nuit de grande secouée, j'ouvre mon sabord pour saluer le Japon. Et il est bien là, toujours le même, à première vue du monde, mais uniformément feutré de neige, sous un pâle soleil qui me déroute et que je ne lui connaissais point. Les arbres verts, qui couvrent encore les montagnes comme autrefois, cèdres, camélias et bambous, sont poudrés à blanc, et les toits des maisonnettes qui grimpent vers les sommets ressemblent dans le lointain à des myriades de petites tables blanches. Aucune mélancolie de souvenir à revoir tout cela, qui reste joli pourtant sous les suaires hivernales. Aucune émotion. Les pays où l'on n'a ni aimé ni souffert ne vous laissent rien. Aux seuls aspects de cette baie, quantité de choses et de personnages oubliés se représentent à mon esprit. Certains coins de la ville, certaines demeures et des figures de nippons et de nippones, des expressions d'yeux ou de sourires. En même temps, des mots de cette langue, qui semblaient jamais sortir de ma mémoire, me reviennent à la file. Je crois vraiment qu'une fois descendu à la terre, je saurai encore parler japonais.
Polynésie, année 1872.
On était charmés quand Rarao chantait.
Rarao chantait. Quand elle chantait seule, elle avait dans la voix des notes si fraîches et si douces que les oiseaux, seuls ou les petits enfants, en peuvent produire des semblables.
Semblables.
Quand elle chantait en partie, elle brodait.
Brodait.
Par-dessus le chant des autres. Des variations extravagantes,
extravagantes,
prises dans les notes les plus élevées de la gamme. Très compliquées, toujours, et admirablement justes.
Justes. Il y avait à Apire,
Apire,
comme dans tous les districts tahitiens, un chœur appelé Imene,
Imene,
lequel fonctionnait régulièrement sous la conduite d'un chef.
Appelé
et se faisait entendre dans toutes les fêtes indigènes.
Lequel fonctionnait régulièrement sous la conduite d'un Rarao
et se faisait entendre en était un des principaux sujets et le dominait tout entier de sa voix pure.
Rarao.
Le chœur qui l'accompagnait était rock et sombre.
Et le dominait tout entier de sa voix pure.
Les hommes, surtout, y mêlaient des sons bas et métalliques.
Le chœur qui l'accompagnait était rock et sombre.
Sorte de rugissement.
Les hommes y mêlaient des sons bas et métalliques.
Qui marquaient les dominantes et semblaient plutôt les sons de quelques instruments sauvages. L'ensemble avait une précision à débiter les coulisses du conservatoire. On était charmés quand Rarao chantait.
Rarao chantait.
Ok, ok, ok. On était charmé dans la Rarao chantant.
Woo!
Jérôme a bien aimé Asiyadé. J'ai reçu ta lettre, désolé. Je réponds à ton appel. Non, je n'ai rien oublié. Ni toi que j'aime plus que la vie et plus que la lumière du soleil, ni Istanbul, ni mon serment sacré. Si je suis tuée, ô ma bien-aimée, épouse Osman. Lui aussi est jeune, il est riche et il t'aime. Avec lui, tu seras heureuse. Oublie Loti qui porte malheur à ceux qui l'approchent. Avec Osman, tu auras des esclaves, des jardins, un rang parmi les femmes de ton pays et ta place d'épouse dans le monde invisible des harems. Si tu acceptes tout cela, ma bien-aimée, si tu m'aimes tant que tu veuilles tout supporter, si tu veux fuir, alors viens, je t'adore et je t'attends.
Le roman d'un enfant, année 1859.
Ma mère est la seule au monde de qui je n'ai pas le sentiment que la mort me séparera pour jamais. Avec d'autres créatures humaines que j'ai adorées de tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai essayé ardemment d'imaginer un après quelconque. Un lendemain quelque part ailleurs, je ne sais pas quoi d'immatériel ne devant pas finir. Mais non, rien. Je n'ai pas pu, et toujours, j'ai eu horriblement conscience du néant des néants, de la poussière des poussières, tandis que ma mère, j'ai presque gardé intactes mes croyances d'autrefois. Il me semble encore que, quand j'aurai fini de jouer en ce monde mon bout de rôle misérable, fini de courir par tous les chemins non battus après l'impossible, fini d'amuser les gens avec mes fatigues et mes angoisses, j'irai me reposer quelque part, où ma mère, qui m'aura devancé, me recevra. Et ce sourire de sereine confiance qu'elle a maintenant m'aura devancé, sera devenu alors un sourire. Et ce sourire de sereine confiance qu'elle a maintenant sera devenu alors un sourire de triomphante certitude.
Juin 1929, un wagon spécialisé d'apprentis ramène d'Andaï où il est mort dans l'après-midi du 10. Le corps de Pierre Loti à Rochefort, le 16. On l'embarque sur l'avion Chamor descend de la Charente pour inhumer dans le jardin de sa maison des aïeux, à Saint-Pierre-de-Léron. Ce dernier voyage, du pays basque à la Sorbonne, du continent de l'île Atlantique, du train, par bateau, des fleuves, en mer, semblait un résumé de la géographie intime vécue durant des décennies par un écrivain voyageur qui revendiquait haut et fort son indéfectible appartenance à la terre charentaise et à son autre région du sud-ouest. Si les Parisiens croyaient que je suis breton, si tout croyait que je suis exotique, en réalité je suis sardonnier. Le roman imprimé à bien des égards, citoyen du monde, représentant d'une écriture de voyage hostile entre reportage impressionniste et poésie empreinte de nostalgie. Regard anthologue, écrit décolarisé. Personnalité flamboyante et incontestablement enraciné. Une chose par exemple que je m'accroche et que personne ne peut me refuser, c'est cette attache profonde que mon père m'avait inculquée. Dès mon enfance dans notre ville, pour ses entours, même pour nos vieux remparts, hélas menacés, et pour tous nos coins de province. Discours de remerciement lors de la ville reconnaissance de la Fiesta, le 26 janvier 1910. Lorsqu'il était nommé commandant de Jarveol sur la Bitacio en octobre 1991, et que le Pays Basque qui alors succédé pour seconder la patrie de la Bretagne, Loti devient l'usager du nouvel espace régional. On peut ainsi accéder dans sa vie, comme dans ses œuvres, une cartographie aux aires atlantiques. Il suffit de lire son journal intime au cours d'une publication intégrale pour reconstruire une cartographie inédite où le nomade intrépide circule à cheval, en calèche, en voiture et traîné par deux poneys basques. En bicyclette aussi, celui-ci qui revendiquait sa sédentarisation comme une patrie jamais négociable ne cesse de la quitter, sinon à la trahir pour mieux ou meilleur sans doute pour y revenir. Et celui qui associait la modernité technologique à une catastrophe, refusait l'électricité domestique et toute vision positive de l'instrumentalisation, ne cesse d'avoir des recours aux nouveaux moyens de transport. L'automobile, en masculin, n'y parle pas. Il l'a dominé. Le 9 octobre 1905, par exemple, déjeuner à Patrice chez le Thomas vers 4h. Madame Thomas m'emmenait par ordre acheter une casquette automobile. Il me faisait monter pour la première fois dans ma vie dans une de ces machines-là. 400 km/h, parcouru à une foule allure, le virage défilant comme le tableau fantasmorique. Un froid qui dessine le ciel. Un marin toujours entre deux terrains. Le marin prend le bateau, c'est la moindre des choses. Les années de jeunesse et des jeunes officiers pauvres.
Une sieste sonore.
Une sieste sonore. Une sieste sonore.
Pierre Loti.
Pierre Loti.
Ses écrits de voyage.
Ses écrits de voyage. Ses écrits de voyage.
De l'enfance à la mort.
De l'enfance à la mort. De l'enfance à la mort.
Une production des élèves de première A et de première C du lycée expérimental de Saint-Trojan, CEPMO.
Non, ce qui était très touchant, c'est que finalement, le Pierre Loti, les élèves ne le connaissaient pas réellement, et pas du tout même, je dirais, et ils se le sont appropriés. Ils se sont appropriés ces textes, mais le texte devient un prétexte, finalement. Comme disait Kant, les silences entre les mots, l'émotion, racontent beaucoup plus que le texte.
D'accord, et on la ressent cette émotion, et chaque texte est dit de manière différente. On sent que c'est des personnalités différentes, et ils ont choisi eux-mêmes des extraits. C'est pas anodin, quoi. C'est
pas anodin, et puis finalement, moi, j'ai été bluffé par le naturel et l'impro musical. Les élèves n'avaient pas beaucoup travaillé sur le sujet. Ils étaient en pleine scolarité, avec le bac en fin d'année et d'autres projets. Mais finalement, ils ont joué le jeu, et je trouve sur ce projet qu'ils ont été bien plus loin que des adultes auraient pu le faire en si peu de temps.
Ah bah oui, c'est la force de la jeunesse. Ils ont été spontanés, et puis on leur a laissé carte blanche.
Il y a sûrement aussi surtout quelque chose qu'on a perdu en route. Mmh. Alors, ça pose aussi des questions sur l'interprétation. Oui. Qu'est-ce que l'interprétation et que devient un texte?
Que devient, oui,
avec le temps.
Voilà, c'est ce qu'on évoquait un petit peu en écoutant l'émission là. Un texte, c'est une structure, c'est un extrait, c'est un morceau complètement froid sur du papier, a priori. Et selon la personne qui va le choisir et le dire et l'interpréter, on va ressentir ce texte de manière différente à chaque fois. Donc ça c'est aussi le travail des oreilles là, et de la voix, et de s'approprier quelque chose et de le faire sien. Et je pense que c'est une superbe expérience pour des jeunes de voir que le français, ben, c'est pas que quelque chose de scolaire, c'est aussi quelque chose qui peut nous appartenir.
Qu'ils peuvent s'approprier.
Voilà.
Transformer.
On peut le transformer.
Réinterpréter.
Voilà.
S'approprier. Pour nous le rendre beaucoup plus beau que ce qu'on nous propose en général, qui
voilà.
est quelque chose d'assez froid.
Voilà, ça fait partie d'une langue qui nous est commune à tous et à chacun d'en faire quelque chose, puisque chacun est porteur de cette langue. Donc on a tous un rôle à y jouer. Et... Ah, revoilà les cloches de Saint-Louis. Donc ils n'ont pas fait trop de retours. Alors est-ce que...
Il y a eu quand même, je dois dire, au mois de juin, une écoute, une sieste sonore là, au lycée en... en contexte de projet de fin d'année, où effectivement, tout le monde est resté quand même, du début à la fin, à écouter ça tranquillement, posé. Mmh. Et
tu parlais d'un aspect méditatif de cette sieste.
Bah, c'est tout l'intérêt justement des siestes sonores, c'est de permettre aux gens de ne pas rester debout, mais de se poser, que ce soit sur les chaises, les transats, mais se mettre en condition d'écoute.
Voilà.
Et c'est ce que je fais moi dans tous mes projets maintenant, hein, régulièrement, que ce soit pour l'écoute des oiseaux, l'écoute de paysages sonores ou de plantes, c'est de proposer aux gens de s'asseoir dans les transats, s'allonger et prendre le temps d'écouter ce qu'ils ne font pas chez eux ou ils ne font plus chez eux.
Donner un temps à ça, respecter ce...
Un temps d'écoute, effectivement.
Ouais.
Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, j'avais participé aux Nuits des Forêts dans le cadre des Nuits des Forêts, mais j'avais proposé le projet de l'écoute des oiseaux dans les transats. Je n'avais pas encore branché les enceintes pour les diffusions et certaines personnes du public m'ont dit « mais c'est merveilleux ce qu'on entend ». Et donc, je leur ai annoncé que ça n'avait pas encore commencé. Ils n'écoutaient que la réalité. Donc, la question est vraiment de prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir écouter et puis ce qui nous est offert.
Très bien. Donc, en fait, en tant que... À propos d'écoute, donc on a du mal des fois à entendre les ados. Peut-être, est-ce qu'on les écoute assez? C'est aussi la question.
Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Oui.
Et moi-même, en tant que musicien, je les ai trouvés absolument fulgurants, quoi. Avec une spontanéité et un sens musical, on pourrait dire inné, même si c'est lié à leur pratique. Mais ils ont été, je trouve qu'ils ont été, assez loin. Et puis surtout, la capacité qu'ils ont eue à intégrer des lectures sur leur musique.
Ouais.
Ce qui n'est pas évident en général.
Ils ont fait les choses très sérieusement.
Sérieusement et poétiquement.
Ainsi se termine cette émission de l'Art au passage consacrée au travail d'Anthony Carcone avec les élèves du lycée Septmois à Saint-Trojan. Merci Anthony, merci Jérôme.
Merci à vous.
Merci. Et donc, on pourra écouter ce travail également qui sera mis en ligne sur le site... du musée de...
Oui, le musée d'Oléron, le musée Saint-Pierre-d'Oléron, on va mettre ça en ligne prochainement.
Durant
pour l'occasion d'écouter la création Les Voyages de Loti 24 heures sur 24.
Voilà, durant l'été 2023.
Durant l'été 2023, oui.
Voilà. Donc, oui.
Non, et puis c'est réécoutable aussi en permanence, en podcast sur radio.labicaille.org, comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Quoi.
Et je vous rejoindrai avec grand plaisir pour continuer de discuter sur l'univers sonore.
Excellent.
Super. Eh bien, on se dit à une prochaine.
Allez,
à très bientôt.
Bye bye.
Bye bye.